Avec ce soir dans le Face à Duhamel pour discuter, pour débattre, Antoine Armand, l'ancien ministre de l'économie, député Ensemble pour la République de Haute-Savoie. Bonsoir, monsieur
Bonsoir.
Le ministre.
Bonsoir
Alain Duhamel.
Bonsoir Alain Duhamel.
Sentiment de submersion, cette expression a donc été employée par François Bayrou hier. Elle a déclenché une polémique politique. Le chef du gouvernement a dû s'expliquer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, répondre aux critiques formulées tôt ce matin dans son propre camp. Mais pas que, genèse de la polémique en 40 secondes.
Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet.
On y est en France, selon vous ? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ?
On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve.
Ça dit quoi ? Ça veut dire que finalement, on a gagné, nous, la bataille idéologique.
Je pense qu'en fait,
on a gagné depuis très longtemps.
Je n'aurais jamais tenu ces propos et il me gêne. Je n'utilise pas ces mots et je ne les utiliserai jamais parce que je crois que c'est contraire à ce que nous sommes profondément.
Alors, en pleine élaboration du budget, ça fait des ans, puisque le Parti Socialiste a décidé de suspendre les discussions avec François Bayrou.
Qui devait aboutir ce soir.
Ce soir, Alain Duhamel, l'expression submersion.
Bon, écoutez, c'est un mot incendiaire. Il ne faut pas dire le contraire, on sait, il est utilisé dans toute l'Europe par l'extrême droite, il a été idéologisé, donc on sait très bien qu'il est incendiaire. Deux, c'est un mot qui est téméraire. Il est téméraire parce que il a été employé, mais conservé, mais assumé, hein, en pleine négociation, à un moment où, avec la commission de jeudi et puis après la semaine prochaine avec le vote sur la loi de finances, etc., on est vraiment au cœur d'une instabilité politique majeure. Donc c'est téméraire. Trois. Et ça, je l'ai pas beaucoup entendu de la part des intervenants précédents. Il est sincère. Parce que François Bayrou, c'est la quintessence du démocrate chrétien historique. Un démocrate chrétien, c'est quelqu'un qui a une conscience humanitaire et un inconscient conservateur. Et c'est vraiment ce qu'il a exprimé de long en large, peut-être inconsciemment, mais enfin, il l'a dit. Et quatre, ça n'est pas... Alors, je m'avance, hein, et je dis ça avec un point d'interrogation. Mais ça n'est pas forcément rédhibitoire. Ce que je veux dire, c'est que ça choque les politiques, mais beaucoup plus les politiques que les Français. Mmh. Et d'autre part, que ça ne veut pas dire qu'il y aura une motion de censure.
En tout cas, on a vu les députés RN applaudir François Bayrou cet après-midi à l'Assemblée nationale.
Et je crois que ce que dit Alain Duhamel, notamment à la fin, est très juste. Ça ne choque que quelques membres de la classe politique qui font semblant de ne pas voir que partout en France, sans doute encore plus au-delà du périphérique, je suis député de Haute-Savoie, je l'entends tous les jours, qu'il y a un malaise français autour de l'immigration. Et on constate aujourd'hui qu'il y a une difficulté à ne serait-ce qu'en parler. Et donc, pour rester dans le champ de la rime, le débat, il est salutaire.
C'est ce que dit François Bayrou. Ce ne sont pas les mots qui sont choquants, c'est les réalités. Mais
ce débat doit avoir lieu. Derrière les mots, il y a, et je pense qu'on y viendra, des réalités extrêmement différentes. Le fait qu'on a un problème avec l'immigration illégale et notre incapacité à expulser des personnes qui n'ont pas vocation à rester, et le fait qu'on a avec l'immigration légale un problème d'intégration majeur qu'on constate au quotidien, qui est difficile et qui provoque ce malaise et ce sentiment de submersion. Mais ne pas en parler ou faire ce que fait le Parti Socialiste depuis des années, en réalité pas juste depuis hier, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle d'immigration, dire ce n'est pas un problème, on ne doit pas en parler, c'est ce qui fait monter l'extrême droite.
C'est une expression que vous auriez pu employer, donc vous ne balayez pas.
Mais ce qu'a fait
le terme submersion, vous auriez pu l'employer.
Ce qu'a fait le Premier ministre, c'est parler d'un malaise et d'un sentiment.
Non, il a dit submersion. Submersion, ça veut dire que c'est une situation incontrôlée.
Mais il parle du sentiment.
Ça veut dire
il parle du sentiment
englouti.
Et du malaise grandissant. Exactement. Et ce qu'il y a derrière, il y a un autre mot difficile à employer, qui est propre au malaise social, qui est celui de l'identité. Mais c'est une réalité. Alors, c'est pas la peine d'esquiver le débat. Il faut l'avoir.
Mais alors, submersion, ça veut dire effectivement qu'on est englouti. On ne contrôle plus rien.
Alors, le mot est polémique, le sentiment est réel. Bon, c'est un fait.
Et la réalité ?
En France, ben, je vais y venir, j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Hein. En France, il suffit de regarder tous les sondages, on en a un par jour là-dessus. Il y a une majorité de Français qui est inquiète pour son identité, ses mœurs, ses valeurs, tout ce qu'on veut. Bon, dans la réalité des choses, parce que la façon, la perception de la réalité, c'est différent. Dans la réalité des choses, la France a un taux d'immigration qui n'est pas en dehors de la moyenne européenne, on est juste au-dessus de 8%.
Mais la question se pose partout en Europe.
Mais non, il n'empêche, c'est important, si, il y a beaucoup d'autres pays européens, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, c'est des problèmes absolument majeurs pour eux aussi. Bon, à partir de ça, il y a des lieux de concentration de l'immigration. Et là, c'est souvent mal ressenti. Et puis, il y a nous, vous. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'information continue, c'est-à-dire l'information tout court d'ailleurs, et qui font que s'il se passe quelque chose à Montpellier, les Lorrains immédiatement réagissent, parce que c'est notre univers.
D'où le sentiment.
D'où le sentiment de généralité.
Et est-ce qu'il a fait une faute politique? Parce que là, il y a quand même une négociation, et comme l'a rappelé Alain, c'était ce soir la réunion finale de validation d'un accord budgétaire avec les socialistes, un accord de non-censure. L'idée, c'est que ce gouvernement ne doit plus dépendre de Marine Le Pen, du bon vouloir de Marine Le Pen. Vous en avez fait les frais, puisque vous avez été censuré avec Michel Barnier. Et là, patatras, on a l'impression que François Bayrou, avec ce mot, a tout mis par terre.
En réalité, je suis assez choqué par l'attitude du Parti Socialiste, parce que si vous prenez un peu de recul, que vous regardez le rapport de force qu'est en train d'instaurer Donald Trump au niveau mondial, et que vous vous dites que le Parti Socialiste de la France serait prêt à entraver le budget de la nation parce que le Premier ministre a utilisé le terme de sentiment de submersion à une émission télévisée, vous vous dites qu'on est complètement sur une autre planète.
L'enjeu est plus grave.
Mais le Parti Socialiste n'est pas du tout à la hauteur de la situation pour une double raison. Celle que je viens de donner, l'importance d'avoir un budget. Et la deuxième, qui est que la principale chose que l'on demande à un parti politique, c'est d'être connecté au ressenti des Français. Ensuite, les solutions, on y reviendra. Elles font l'objet de désaccords. Moi, je pense qu'il faut mettre les mots sur les choses. Je pense que l'extrême droite en France met des mots justes sur beaucoup de choses, mais qu'elle ne met pas les bonnes solutions en face. Ne pas être capable de le reconnaître. Non, mais ne pas être capable de le reconnaître, c'est une faute politique majeure de la part du Parti Socialiste.
Oui. Bon, le Parti Socialiste, il faut reconnaître que François Bayrou, hier soir, est encore cet après-midi, l'a mis dans une situation franchement difficile. Il était en train d'évoluer pour accepter des solutions économiques qui sont pas du tout idéales dans une situation budgétaire que vous avez vécue et que vous vivez toujours, qui est quand même en dehors des normes à tout point de vue. Et au moment où ça allait aboutir, au moment où ils allaient être raisonnables, en prenant le risque de se faire insulter par leurs partenaires, à ce moment-là, on leur dit la chose la plus difficile pour eux, avec leur idéologie, leur conception, leur culture et leur sincérité. Il y a beaucoup de dirigeants, je parle des dirigeants, je ne parle pas des électeurs, qui eux sont beaucoup plus nuancés.
Ils sont même d'accord.
Oui.
Si on regarde les enquêtes d'opinion, d'accord avec ce type de constat.
Alors justement, mais il se trouve que maintenant, les socialistes, ils sont mis dans une situation extraordinairement compliquée. Parce que rationnellement, ils pensent que ce budget qui n'est pas leur budget, qui n'est pas leur majorité, mais il doit passer parce qu'on en a besoin. C'est pas la peine de tourner autour du pot. On est à un moment où on peut pas être un pays sans budget. C'est grotesque.
Même si c'est pas un très bon budget.
Mais bien sûr.
Mieux vaut un mauvais budget que pas de budget.
Et ça ne peut pas être un très bon budget puisque c'est un budget de circonstance dans des conditions anormales et avec des limites incroyables. Donc le vrai budget, ce sera celui d'après. Bon, mais on n'en est pas là. Et si maintenant ils acceptent néanmoins non pas de soutenir mais de ne pas être là au moment de voter, d'avoir brusquement un rhume, etc., ils vont en prendre plein la figure de leurs partenaires. Il suffisait d'écouter tout à l'heure non seulement les insoumis mais les écologistes.
Les insoumis vont dire, voyez, vous l'aviez dit.
Non, mais bien sûr, oui, mais c'est pour ça qu'ils sont vraiment...
Je suis d'accord, mais c'est un peu facile de leur laisser cette sorte de compassion en disant les pauvres socialistes, ils vont se faire taper dessus par LFI et les écologistes. Le péché originel, c'est l'alliance avec la France insoumise. Point barre. Quand vous vous alliez avec un parti qui cherche le désordre, qui est prêt à censurer gouvernement sur gouvernement, qui pense que le déficit est une invention du capitalisme mondialisé et qui, au fond, préfère faire payer les Français plutôt que leur propre classe politique, vous êtes foutu. Dès le début, vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant dans votre propre circonscription de personnes qui n'ont pas l'intérêt de la France chevillée au corps. Donc, je veux bien les plaindre, mais il y a quand même un moment, c'est ça qui les a fait élire. Donc, il est temps de prendre ses responsabilités.
Je n'aime pas trop la formule qu'ils n'ont pas l'intérêt de la France chevillée au corps, parce que j'ai tellement entendu ça de la part de tellement de partis.
Je parle de la France insoumise.
Oui, oui, non, mais d'accord.
Parce que malheureusement, c'est assez net. Là,
chez les socialistes, parce que c'est eux dont on parlait, chez les socialistes, on le sait bien, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a en réalité deux tendances. Il y a une tendance, disons, idéaliste, traditionnelle, humaniste, qui est qui n'a pas envie qu'on dise des choses désagréables à propos de l'immigration. Hein, et qui toujours dira, mais non, mais finalement, on finira par, tout ça s'intégrera, etc. Et puis il y en a une autre qui a toujours été réaliste, d'ailleurs qui ne correspond pas forcément au même type de circonscription, soit dit en passant, et qui elle, au contraire, a été toujours la fermeté républicaine, d'accord, le respect des lois, etc. Mais il y a toujours eu, moi j'ai toujours connu ça, ces deux familles.
En attendant, il y a les états d'âme des socialistes, enfin, il y a un budget pour la France à trouver.
Ah, ça, oui.
Dans une situation économique qui se dégrade, le chômage est reparti à la hausse. On parle beaucoup de fiscalité. Alors, on fait des concessions, notamment au Parti Socialiste, sur les économies qu'on voulait faire. Alors, finalement, on ne supprimera pas des postes de fonctionnaires à l'éducation nationale. Finalement, on ne déremboursera pas les médicaments.
Si on trouve des fonctionnaires à l'éducation nationale.
Où est-ce qu'on va faire des économies, Alain Duhamel? Vous les avez vues, les économies, là, dans ce budget?
Alors,
ça reste très flou quand même.
Non, mais d'abord, ça n'est pas encore bouclé.
Oui, enfin bon.
C'est pour bientôt, mais c'est pas bouclé.
Ensuite, vous connaissez que c'est pas mis au débat quand même.
Ensuite, il y a quand même la majeure partie qui, par la force des choses, est héritée de ce que vous aviez préparé. On peut pas faire autrement. Quand on doit improviser dans un délai tellement court, bah bien sûr que ça reprend beaucoup de choses. Alors, on peut toujours, moi je le pense, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, trouver qu'il y a trop d'augmentation d'impôts et qu'il n'y a pas assez de baisse des dépenses. Et on sait qu'on peut imaginer des baisses de dépenses.
Ah oui.
On peut imaginer des baisses de dépenses, évidemment, en modifiant le système de retraite, et le système à points aurait probablement été une bonne chose. On peut le faire en vendant nos participations industrielles. Alors, ça marche qu'une fois, mais on n'a rien à fiche dans toute une série de sociétés qui se passerait très bien.
De l'État ?
On peut... Vous savez que c'est ce qui s'est fait la plupart du temps depuis 30 ans. C'est-à-dire de jouer, sur le point d'indice. Selon qu'il y a revalorisation ou pas. Oui, mais ça change beaucoup de choses. Non, pas comme on fait l'Espagne ou le Portugal en disant moins 20% pour les fonctionnaires. Et comme ça, on arrivera à l'équilibre. C'est pas ça que je veux dire. Bon, on peut faire, là aussi, ça peut pas se faire à propos de tout, mais on peut imaginer un grand emprunt national garanti par l'État pour, par exemple, dire, il faut faire un effort de défense supplémentaire. Aujourd'hui.
C'est pas les économies, ça.
Ben, si, bon. Et il y a ce qui, pour moi, reste un des mystères français. Alors, vous avez peut-être la solution. C'est comment est-ce qu'on peut, on a à la fois un endettement public lamentable. Et lamentable et imputable à tous les gouvernements. Et on a une épargne privée gigantesque et saine. Comment est-ce qu'on n'est jamais arrivé à trouver des moyens pour que l'épargne privée puisse avoir, non pas un emploi extravagant ou téméraire, mais simplement un emploi efficace économiquement? Moi, c'est une question que je me suis toujours posée, et jusqu'à présent, pourtant j'ai posé ça quelquefois à des grands économistes, j'ai pas entendu une réponse...
Le gouverneur de la Banque de France voulait piocher dans l'épargne privée. Hein. C'était une hypothèse qu'il a émise.
Ça ne sera pas très populaire. Antoine Armand, alors les économies...
On ne volera pas leur épargne aux gens. Ah bah non.
Mais si vous voulez, il y a dans ce qui était dit, il y a deux moments. Il y a le moment du budget qui se joue dans quelques jours, qui est hérité du budget qu'on avait préparé avec Michel Barnier, qui se fait dans l'urgence. C'est au fond, à la fin, le budget de personne. C'est un budget de compromis qui a pour principal mérite d'exister et de remettre la France sur les rails de la réduction.
Qui est forcément déceptif.
Des comptes qui est forcément décevant et sur lequel, je rappelle qu'au fond, quand on l'a examiné, tout le monde avait des idées d'impôts et personne des idées d'économie. Et qu'il a fallu revenir pour que ce budget soit adapté.
C'est quoi vos idées d'économie? Parce que quand on pose la question, on a toujours des réponses floues.
Et je le comprends, j'y viens, et je le comprends qu'il y ait des concessions qui soient faites. Et puis, il y a la direction qu'on veut donner au pays. Pour le dire très simplement, c'est pas en menant la politique de François Mitterrand qu'on va résister à Donald Trump. Dans le pays qui taxe le plus au monde, c'est pas en augmentant durablement les impôts qu'on va y arriver, et c'est pas en ayant la masse salariale de fonctionnaires la plus élevée de l'Union européenne qu'on va y arriver. Donc il faut qu'on se donne pour les prochaines années une direction avec une baisse de la masse salariale.
Donc il faut réduire le nombre de fonctionnaires partout.
C'est une évidence.
Mais c'est une évidence, mais peu de gens le disent.
Mais je vous le dis.
Oui, vous le dites parce que vous êtes plus ministre de l'économie.
Non, pardon, je l'ai dit quand j'étais ministre de l'économie et je continue à le dire aujourd'hui. Ensuite, on a une dépense sociale, une dépense de santé, je l'ai dit y compris quand j'étais ministre, qui n'est pas tenable et qui pèse sur le coût du travail. Un exemple parmi d'autres, on a aujourd'hui 6 milliards d'euros dédiés au transport sanitaire, 4 milliards aux taxis conventionnés par l'assurance maladie qui permettent de se déplacer en taxi individuellement. Je pose toujours la même question, est-ce qu'un pays avec 3300 milliards de dettes peut se permettre d'avoir de telles augmentations des dépenses de santé? Non. Quant à l'épargne, les Français ont peur et les Français voient que nous taxons toujours plus au lieu de faire des économies et donc ils continuent à se réfugier dans l'épargne. Nous devons relancer l'économie et ça passe évidemment par des réductions de déficit.
On n'a pas entendu parler de baisse d'impôts parce que Trump baisse les impôts, puisque vous l'avez cité.
Mais oui, mais pas seulement Trump, l'Italie également.
Oui, mais
bon, Trump pour nous, c'est un risque et c'est une chance parce que ça va quand même peut-être nous obliger, même malgré nous, à prendre des décisions qu'on n'a pas envie de prendre spontanément.
Et bien, à bientôt pour de nouvelles discussions, parce qu'on n'est qu'au début. Merci Antoine Armand, ancien ministre de l'économie. Merci Alain Duhamel.